voilà, tout est prêt. Merci à vous tous d'être présents aujourd'hui pour la rencontre littéraire du jour, à savoir Bernard Werber, qui nous fait plaisir d'être parmi nous suite à l'apparition de son dernier roman, Le miroir de Cassandre, chez Albin Michel. Bernard Werber, bonjour et merci d'être là, malgré la neige qui nous accompagne en ce mois de janvier. Alors la connaissance finalement n'est rien sans la transmission. Est-ce pour cela que vous écrivez? Et justement, votre transmission à vous, eh bien, ce sont vos multiples livres.
Oui.
Ouf, non mais c'est vrai, j'ai résumé tout en une phrase, alors je ne peux pas dire mieux, donc la connaissance doit être transmise.
Et c'est pour ça que finalement, votre nouvelle héroïne, Cassandre, avec elle, il est de nouveau question de connaissance et de transmission. Alors bien sûr, Cassandre, ça fait penser au mythe grec. Et vous imaginez finalement une Cassandre des temps modernes qui ressemble plus à, au départ, parce que c'est une femme en devenir, à une femme préhistorique, perdue un peu dans un monde en décomposition.
Certes.
Certes. Oui, non.
Allez, je vais... Non, mais c'est vrai, t'as tout résumé. Vas-y, continue.
Je continue. Mais finalement, c'est le public qui posera les questions. Alors,
non, mais je vois que t'as bien compris. C'est ça que je voulais dire, c'est vrai.
Alors, est-ce qu'on doit s'attendre, puisqu'elle va être aidée dans son périple, dans son devenir par une bande de clochards, est-ce qu'on doit s'attendre après le cycle des anges, par exemple, au cycle des clochards?
Il y en a un qui connaît la réponse. Non.
Ah, après deux oui, un non.
Non, mais par contre, il y a une petite connexion étrange pour ceux qui l'ont lu. C'est, en fait, elle s'appelle Katzenberg et donc elle est liée à la famille, enfin à Isidore. Et j'ai fait ça juste un clin d'œil pour que ça amuse ceux qui avaient lu les bouquins précédents. En fait, je perçois les lecteurs comme une famille, d'ailleurs que je viens retrouver de temps en temps. Là, j'ai la famille belge aujourd'hui. Et je me dis, tiens, c'est pour eux, je vais leur faire des petits clins d'œil qui ne pourront fonctionner que pour ceux qui ont lu les livres précédents. Sinon, ils se demandent, Katzenberg, c'est la montagne du chat. Voilà, on ne comprend pas. Donc, là, je dirais, ce qu'il y avait avant, c'était le père de nos pères et l'ultime secret. Et ce qu'il y aura après, c'est celui que j'écris actuellement, dans lequel il faut que j'arrive à trouver une petite incrustation de Cassandre. Elle va faire un petit coucou, elle va dire bonjour, tu vas repartir. C'est un clin d'œil pour que tous les livres soient connectés ensemble. Mais bon, pour ceux qui n'ont pas lu l'ensemble de mes bouquins, ça marche aussi. C'est fait pour tous les livres sont faits pour être autonomes et connectés. Un peu comme les êtres humains. On est tous indépendants et puis finalement, on a des petites connexions les uns aux autres. Et donc, il y a deux manières de voir un être humain. C'est seul ou au milieu de sa famille, de sa ville. Voilà. Alors ce livre, soit on peut le voir seul et ses aventures de Cassandre. Soit on le voit comme Cassandre étant... La nièce d'Isidore, et dans ce cas, ça rentre dans une problématique qui est ce que tu as dit, la transmission de la connaissance. Le mot transmission de la connaissance, ça fait tout de suite un peu lourd. Comment dire?
Partager le savoir.
Ouais, non, je vous explique. Avant, j'étais journaliste scientifique et je me suis aperçu rapidement qu'il y a deux sortes de gens, ceux qui s'intéressent à la science et ceux qui ne s'intéressent pas à la science. Ceux qui ne s'intéressent pas à la science, qui lisent le journal. À l'époque, j'étais au Nouvel Observateur. C'est simple, ils passent les pages et tout ce qui est écrit dessus sur l'origine de la planète, sur l'origine de la vie, ils se disent dans leur tête, c'est pas leur truc. Et je dis ça, les gens, je précise même, les autres journalistes. Parce que les autres journalistes de l'Obs me disaient, ah nous, la science, c'est pas notre truc. Et je trouve ça stupide, surtout de la part de journalistes, c'est-à-dire que la connaissance, c'est pas la science, la littérature, la peinture, la musique, et si on s'intéresse à un truc, on ne s'intéresse pas aux autres. Tout est intéressant. Je suis rendu complètement dehors du mon bouquin, mais je suis en réponse à ta première question.
Mais on y est, parce que finalement, les mots, c'est les liens finalement entre toutes les personnes, toutes les identités, voilà. Que l'on soit.
C'est juste que c'est mal présenté. Moi, quand j'étais petit, je n'aimais pas les épinards. Je crois que je ne suis pas le seul à ne pas aimer les épinards. Puis tout d'un coup, on m'a présenté des épinards frits à la poêle avec des petits oignons. C'était des épinards. Et je me suis mis à aimer les épinards. Maintenant, je commande des épinards volontiers. Enfin, ce n'est pas mon plat préféré, mais j'en mange volontiers. Eh bien, la science, c'est pareil. La science, c'est juste qu'on vous la présente d'une manière, style, il y a des types en blouse blanche qui sont les spécialistes, qui utilisent des mots incompréhensibles. Ce sont des scientifiques. Et si vous n'êtes pas copain avec ces gens-là, vous ne comprendrez rien. Alors, ça, c'est comme ça qu'on nous l'a appris à l'école. C'est comme ça qu'on nous le présente à la télévision. Ils ont un jargon qui coupe, qui met un fossé. Et moi, je me suis dit, ce qui est intéressant, c'est de dire, attendez, parler des étoiles, on n'a pas besoin d'avoir un diplôme, pas besoin d'avoir une blouse blanche. Vous levez la tête, il y a des étoiles, vous les regardez, vous posez des questions. N'importe qui peut s'intéresser à la vie, le soleil, les étoiles, la santé. On n'a pas besoin d'avoir fait d'études, on n'a pas besoin d'être orienté par l'école. Parce que l'école, en nous spécialisant, nous a coupé de certaines zones de connaissances. Donc dans mon travail, j'essaie de ramener la connaissance à ce qu'elle est, c'est-à-dire une satisfaction de la curiosité. Et être curieux, c'est être intelligent, c'est être jeune, c'est être bien, c'est être vous, mes lecteurs. C'est-à-dire, vous posez des questions et vous ne vous contentez pas de rabâcher tout le temps les mêmes domaines dans lesquels vous êtes déjà spécialiste et que vous faites juste que vous perfectionnez dans des domaines trop spécifiques. Donc, ma démarche en général, c'est d'intéresser les gens à des choses qui peut-être ne les intéresseraient pas. Par exemple, dans celui-ci, c'est le futur. Ça a l'air de rien, mais le futur a besoin d'être réhabilité parce qu'on considère que le futur fait peur. Le futur, c'est la fin du monde, c'est l'apocalypse, c'est 2012. C'est des tas de choses qui font que c'est la grippe, c'est la mort, les cataclysmes, le machin. Et c'est comme ça qu'on nous présente le futur. Donc il fallait redonner une meilleure image du futur et se dire, le futur, c'est vous qui, avec vos idées, allez le changer. Et s'il est merdique, c'est parce que vous n'avez pas fait le travail, enfin vous n'avez pas osé faire le travail, ou parce que des gens n'ont pas osé faire le travail. Et s'il est réussi, c'est parce que vous avez osé faire le travail. Donc j'avais envie de vous rendre le futur, que ça n'appartienne pas non plus aux prospectivistes. Et le père de nos pères, c'était pour vous poser la question, c'est qui mon plus lointain ancêtre? On n'a pas besoin d'être paléontologiste pour se poser cette question. On se demande tous pourquoi l'homme est apparu sur Terre, quel était notre ancêtre le plus lointain. L'ultime secret, c'est pour savoir qu'est-ce qui nous motive. Cette question a l'air évidente, elle n'est pas du tout. L'ultime secret, c'était qu'est-ce qui fait que moi je parle, que vous m'écoutez, que vous levez le matin, que vous mangez. Eh ben, c'est un petit contact dans le cerveau, dans une zone qui s'appelle MFB, Median for Brain Bundle. Et tout ce que vous faites ne sert qu'à envoyer des petits stimuli dans cette zone qui est minuscule, qui a une tête d'épingle. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, ça serait peut-être intéressant d'informer les gens sur cette chose-là. C'est qu'ils croient qu'ils font ça par amour des arbres, par amour d'une personne, parce qu'ils ont faim, parce qu'ils aiment les épinards ou ils n'aiment pas les épinards. Non, c'est qu'une manière de stimuler directement ou indirectement cette zone. Donc ça, c'est une petite info. Ça a l'air de rien. Ça ne va pas changer votre vie. En même temps, ça va faire que vous allez mieux comprendre quelque chose qui fonctionne dans votre tête et qui vous fait avancer. Et ça me semblait intéressant. Donc ce que tu appelles connaissance, pour moi, c'est le monde dans lequel on vit. Et les crétins sont ceux qui ne s'intéressent pas au monde dans lequel ils vivent ou qui se contentent d'avoir les infos au hasard de la télévision. Et la télévision, ça vous donne une sorte de prêt-à-penser consensus qui est fait pour tout le monde avec une sorte de truc grisâtre qui ne va pas vous gêner et qui ne va pas vous surprendre. Mais la vraie connaissance, c'est vous-même qui allez la forger. J'espère que mes livres vont vous donner envie d'aller encore plus loin dans des domaines qui, a priori, ne vous intéressaient pas. J'espère que ça va vous donner envie de regarder les étoiles, pour par exemple le papillon des étoiles. Ça va vous donner envie de vous intéresser à votre cerveau pour l'ultime secret. Et ça va vous donner envie de vous poser des questions sur le futur pour le miroir de Cassandre. Mais de manière étonnante, j'ai l'impression qu'on est à la préhistoire de la transmission de la connaissance. Il y a des chapelles avec des gens qui ont des jargons, qui sont les geôliers de la connaissance, qui, malgré ce qu'ils disent, ne veulent pas du tout la diffuser, qui sont dans des systèmes de petites chapelles de reconnaissance, de clubs, de gens qui connaissent et qui s'intéressent. Et du coup, plus personne ne sait comment marche son réfrigérateur. Quand le réfrigérateur tombe en panne, s'il faut juste appeler quelqu'un, et si quelqu'un ne vient pas, c'est la fin du monde. Parce qu'on s'est coupé de la curiosité de regarder dans son réfrigérateur pourquoi il y a une grille derrière qui chauffe, pourquoi il y a une pompe qu'on entend, se poser des questions de base, se demander comment marche la technologie, comment marche l'électricité, se poser des questions tout simplement sur notre univers.
Alors, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Après, le public va pouvoir vous poser des questions, Bernard Werber, mais tout ça passe par les mots écrits, les mots parlés pour vous, les mots qu'ils lisent et également. Est-ce que la véritable misère, c'est justement la misère du vocabulaire? Parce qu'on parle des mots dans ce livre-là et que finalement, l'être humain se contente d'utiliser pas plus de 120 mots pour s'exprimer?
Ça dépend des quartiers. Mais En effet, mon héroïne va comprendre, parce qu'elle vit au milieu de clochards, elle va s'apercevoir que la vraie misère est une misère intellectuelle. Savoir que quand on n'a même pas les mots pour décrire sa pensée, on est limité. La limitation, ce n'est pas que l'argent. Si vous avez de l'argent, mais vous n'êtes même pas capable d'avoir une pensée qui va loin, parce que votre pensée, c'est juste « Ah, je voudrais la montre. Ah, je voudrais la voiture. Ah, je voudrais la maison. » Et vous accumulez juste des objets. Mais est-ce que ça va vous rendre heureux ? Il y a une autre... expérience à vivre sur Terre qui consiste à élargir sa conscience. Élargir sa conscience, vous n'avez pas besoin de payer pour élargir votre conscience. Comment vous faites pour élargir votre conscience ? C'est d'abord être curieux, ensuite voyager, avancer dans le monde, et ensuite accumuler, comme mon héroïne, faire la collection des mots, parce qu'il y a des mots qui tout d'un coup vous donnent des manières de penser différentes. Bon, par exemple, je reprends un exemple de mon héroïne, le mot oxymore, qui n'est pas un mot très répandu, mais qui est en même temps assez intéressant, c'est le fait d'associer deux mots. Tu sais que c'est ce que ça veut dire, oxymore ? Deux ? Non, d'accord, mais combien de personnes savent ce que ça veut dire ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six.
C'est tous ceux qui sont déjà eu.
Bon, alors, je vous le donne, celui-là, comme ça, vous pourrez frimer ce soir en société. Il n'est pas très répandu, hein, donc vous avez des raisons de... C'est l'association entre deux mots impossibles à mettre à côté, comme une nuit blanche, comme un silence assourdissant, comme... Tu en as d'autres là ? Vous en avez d'autres là ? Un clair-obscur, voilà. C'est des mots qui, en toute logique, ne peuvent pas être à côté, mais qu'on va associer quand même. Et dès le moment où vous comprenez que... On peut, c'est une formule quasiment de poésie, que vous pouvez associer, vous pouvez mettre à côté deux mots impossibles à associer. Vous avez un petit effet, qui est un effet paradoxal, qui est intéressant, et qui, c'est comme le goût de doux amer, c'est comme acide sucré. C'est-à-dire, c'est des choses qui, normalement, on les associe pas, ça donne un effet intéressant. Donc, c'est vrai que vous pouvez vivre sans le mot oxymore, je reconnais. C'est écrit qu'un Y, en plus, pour compliquer la vie. Mais en même temps, une fois que vous l'avez intégré, je vous en ai parlé, vous allez voir, vous allez faire attention à ça. D'abord, vous allez oser peut-être associer des mots qui normalement ne doivent pas être associés. Et c'est une tournure d'esprit.
Et oubliez surtout le mot résigné, parce que je pense que le mot résigné, c'est pas un
mot
intéressant.
Oui, c'est le mot. Bah, déjà, dès le moment où on prend conscience que ce qui ne nous va pas, c'est le mot résignation, on a mis un mot dessus. Vous savez, si on regarde la Bible, un autre best-seller très sympathique, que je vous conseille de lire aussi, il y a cette idée qu'au commencement, Dieu a fait apparaître Adam et Ève, et puis là-dessus, il a dit à Adam, « Je vais faire venir vers toi tous les animaux, et parce que tu les as nommés, ils t'appartiendront, et tu pourras les utiliser pour les manger, pour avoir du lait, et pour les faire travailler. » Donc, c'est le fait de nommer les choses qui les fait exister et qui se les fait se les approprier. Vous voyez où je veux en venir ? C'est-à-dire que le fait de mettre une étiquette sur un objet fait déjà que cet objet vous appartient. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Parce qu'avant, la petite chose qui courait, c'était un être, c'était un animal libre. Mais dès le moment où on l'appelait un lapin, ça devient une source de viande, ça devient une source pour faire des vêtements. C'est-à-dire, nommer les choses, c'est les réduire à une étiquette. D'ailleurs, regardez bien, vous n'êtes pas que votre prénom. Pourtant, les autres, quand ils pensent à vous, ils pensent juste à votre prénom. Mais si vous deviez vous décrire vous-même, vraiment, vous avez envie de dire, moi, je ne suis pas que Bernard. Je suis Bernard, plus les livres, plus mon passé, plus tous les gens que j'ai rencontrés, plus tout ce que j'ai vécu. Mais tout ça, ça n'est pas dans Bernard. D'accord ? Et le fait de maîtriser les mots et d'étiqueter les êtres, c'est une prise de pouvoir. Et il faut se libérer de ça. C'est-à-dire, moi, je vous dis, je ne suis même pas que Bernard ni que Werber. Je suis bien plus que ça, et c'est aussi pour ça que j'ai envie de vous en parler. Mais vous-même, apprenez à ne pas vous voir que à travers du regard des autres qui vous voient comme un nom et un prénom, ou encore pire, un numéro d'immatriculation comme sur, ou un code barre comme il y a sur votre passeport. C'est-à-dire on est en train de vous réduire à des mots. Et il faut garder cette notion que les mots, c'est un outil, mais cet outil emprisonne les choses et vous empêche par moment de les voir. Vous savez, c'est comme les gens qui disent est-ce que tu as été en Angleterre ? Ah oui, l'Angleterre, je connais. C'est le mot Angleterre dont ils sont en train de parler. voyez. Mais l'Angleterre, non, il ne connaît pas. Et regardez, vous verrez bien, dans votre conversation, vous avez souvent ce moment où, par rapport à tel mot, vous dites, ça c'est fait. Soit en parachute, c'est fait. Venir chez Filigrane, c'est fait. Voilà. Et en fait, non, c'est pas fait. C'est des expériences au-delà des mots. Les choses, les êtres existent au-delà de l'étiquette qui les caractérise. Alors, c'est ce que prend comme conscience mon héroïne.
Alors, posez des questions à Bernard Werber. C'est presque fait pour moi. Ça va être votre tour d'ici quelques instants. Mais avant de céder les questions au public, Bernard Werber, il y a aussi la connaissance qui passe par les mots, changer le regard sur les choses, parce que ça, on peut le faire, même si on ne peut pas changer les choses. Mais on est tous, à un moment donné dans sa vie, on connaît tous des accidents de parcours. Et vous, finalement, l'accident de parcours qui est quand même à l'origine de ce livre, c'est quand vous aviez 18 ans à New York.
Oh, c'est pas un accident de parcours, c'est une expérience comme le saut en parachute, que je n'ai toujours pas fait d'ailleurs. Je suis arrivé, j'étais parti avec un copain qui était breton, et il m'avait dit, tu vas voir, il y a un réseau de mafias bretonnes à New York qui tiennent tous les restaurants, et comme ça on sera serveur. Alors moi, j'ai toujours vu à Paris les serveurs américains, je me suis dit, bon, il doit y avoir un système d'échange, ils nous envoient leurs étudiants qui nous servent de serveurs, et nous, en tant qu'étudiants, on va être serveur aux États-Unis. Et donc, il s'appelait Le Dréau. Et on est allé voir les restaurants français tenus par des Bretons à New York. Et en effet, ils sont tenus par des Bretons. Et le problème, c'est que la mentalité américaine et la mentalité française n'est pas la même. Donc, dès qu'on a fait notre demande pour devenir serveur, en fait, ils appelaient en parallèle la police pour signaler qu'il y avait des travailleurs immigrés qui n'avaient pas la carte verte. Donc, ça a commencé à devenir un peu bizarre. Bon, déjà, on a compris qu'il n'y avait pas de source de revenus. Et on devait tenir avec notre somme. Mais le deuxième petit pépin, c'est qu'on s'est fait voler tout notre argent d'un coup. Ça s'est joué dès le deuxième jour d'arrivée à New York. Et donc, on s'est retrouvé avec quelque chose qui devait correspondre comme 100 dollars pour tenir 2 mois. Avec, normalement, on faisait la tournée entière. On faisait New York, Los Angeles, le Mexique, tout ça. Bon, avec 100 dollars, c'était juste. Alors, on s'est mis à dormir dans les YMCA. En France ou en Belgique, c'est peut-être pas mal, mais là-bas, c'est des hospices pour le chat. Les portes ne ferment pas. Il y a des cafards partout. On entend des hurlements. C'est downtown. Bon, je vais pouvoir compter les États-Unis. En fait, j'avais 18 ans et donc on dormait downtown dans des quartiers très louches. On dormait sur les halls de gare et on fréquentait des gens très bizarres. On ne comprenait même pas ce qu'ils racontaient parce qu'ils parlent en anglais avec encore moins de vocabulaire que les 120 mots. Et bon, c'était un peu dangereux. Mais en même temps, c'est une expérience que j'ai faite et j'en suis revenu. Et comme on dit, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Donc en tout cas, ça m'a inspiré ce contact avec... ça m'a inspiré l'envie de décrire ce contact avec ceux qu'on considère comme les résidus de la société, qui sont en fait juste ceux qui sont plantés, qui sont fait torpiller un chemin. Faut voir qu'aux États-Unis, quand même, petite parenthèse, être pauvre, c'est vraiment considéré comme une sorte de maladie contagieuse. Donc les gens, quand ils voient que vous êtes mal habillé ou que vous n'êtes pas lavé, ils vous fuient, style comme s'ils avaient peur qu'on vous touche, que le contact avec un pauvre, ça vous rende pauvre. Et on n'a pas en Europe un tel racisme envers les pauvres, mais là-bas, c'est vraiment dur. Enfin, ils vous jugent sur ces souvenirs anciens, mais ils vous jugent vraiment sur ce que vous avez l'air de posséder comme argent. Et c'est un monde matérialiste, on va dire, un peu plus que chez nous. Mais cette expérience, en tout cas, m'a permis de m'intéresser à ça. J'ai donné des conférences chez les Clochards à Paris. Et j'ai rencontré des gens qui étaient surtout en colère et qui m'ont semblé aussi très réactionnaires. C'est-à-dire, moi, je me dis, si j'étais clochard, j'aurais envie de faire la révolution et d'être de gauche. Ben, eux, on va dire, ils étaient à l'ultra-droite. Et ils disaient, tout ça, c'est la faute des étrangers qui nous piquent notre travail et tout. Et donc, ça avait un discours assez surprenant. Mais c'est vrai que dans ma naïveté, je croyais que les clochards étaient de gauche. C'est une erreur. Donc les clochards sont d'extrême droite, à Paris en tout cas. Je ne sais pas comment ils sont ici. Mais j'ai quand même, je suis arrivé au bout d'un moment à créer un dialogue. C'était bizarre parce que quand on voit un clochard, on se dit tout le temps qu'il a envie d'un logement et de la nourriture. Et là, en tant qu'écrivain, j'étais en train de leur apporter la culture. Donc un truc dont, a priori, ils n'ont pas besoin. Et en fait, c'est une grande idée du type qui organisait ça. C'est si vous leur donnez le besoin tertiaire, c'est-à-dire le truc dont quoi ils n'ont pas besoin, en fait, le reste va aller mieux. Et c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai essayé de leur redonner le goût de la lecture. Et je me suis dit, bon, tout ça n'a pas dû fonctionner sur tous, même si ça a fonctionné sur 20%. Vous avez une centaine de clochards, il y en a 20 qui vont avoir le goût des livres après la conférence. C'est un petit truc en plus, et je crois que ça va les aider, ça va leur donner goût à la vie. Il y avait une chose qui m'avait beaucoup plu quand j'ai donné la conférence chez ces clochards, c'est que le directeur de l'association avait trouvé une idée toute simple qui était de fêter les anniversaires. Et alors ça a l'air de rien, parce que bon, je pense qu'il y a peu de clochards dans cette assistance, mais la plupart des clochards avaient oublié leur âge. Ils avaient oublié leur date d'anniversaire. Et en leur rappelant leur date d'anniversaire, ils les resituaient dans une rythmique de temps. Et le jour de leur anniversaire, ils leur demandaient qu'est-ce qu'ils voulaient comme gâteau. Ils leur amenaient un petit gâteau acheté à la boulangerie avec une bougie. Du coup, ils recréaient un rituel. Du coup, ils recréaient une perspective dans le temps. Et du coup, quelque part, ils les resituaient en tant que personne. Le problème de beaucoup de clochards, c'est qu'au bout d'un moment, ils oublient le temps, ils oublient ce qui se passe, ils oublient tout, et même ils finissent par devenir fous, parce que précisément, ils n'exercent pas leur cerveau à travailler, à communiquer, ils perdent les mots, ils perdent le contact avec les gens. Et donc, ce travail sur le cerveau et sur la culture est très intéressant, et les gens n'y pensent pas. On se dit juste, ah, il leur faut une couverture chaude, il leur faut la nourriture, voilà. Je voulais parler aussi de ça. Mais en fait, je ne vous ai pas du tout parlé du livre pour l'instant. Mais le problème, c'est que... Alors ça, c'est une phrase. Le problème, c'est que c'est une virgule chez moi. Je fasse attention. Le livre étant pour moi quelque chose de parfait, c'est-à-dire dans lequel il y a le début, le milieu, la fin, il y a tout, il est complet. Je me dis, tout ce que je pourrais dire sur le livre en plus du livre, ça voudrait dire qu'il est incomplet et que je dois rajouter des choses. Donc, c'est pour ça que j'hésite à faire ce travail. Maintenant, j'ai envie que vous rencontriez Cassandre, qui est mon héroïne. J'ai envie que vous viviez avec elle, que vous l'aimiez, et que vous vibriez avec tout ce qu'elle va découvrir, tout ce qu'elle va faire comme aventure. Mais je ne sais pas vous le lire autrement qu'en vous parlant de choses complètement à côté. Si ce n'est, on a compris qu'elle vivait avec les clochards, qu'elle voyait le futur. Et si je peux rajouter une chose, c'est qu'elle est... Elle est résiliente. Le mot est mon copain Boris Cyrulnik. Oui. Mais résiliente, ça veut dire quoi? Ça veut dire que plus elle s'est pris de problèmes dans sa jeunesse, plus elle va avoir de mérite si elle s'en tire. Et là, elle part avec des problèmes gigantesques. Et parce qu'elle a des problèmes gigantesques, elle va développer des talents fabuleux. Mais ce n'est pas Superwoman, c'est juste un être humain qui va développer sa conscience. C'est marrant de parler de ce livre que j'ai écrit il y a un an, mais je me replonge du coup dedans. Et en fait, c'est le thème de beaucoup de mes livres, c'est la vraie aventure n'est pas la technologie, c'est même pas l'intelligence, c'est même pas la politique. La vraie aventure, c'est la conscience. Et la conscience, c'est quelque chose qui est juste une sorte d'élargissement de l'esprit. Je vais essayer de vous définir le mot conscience, parce que c'est un mot qu'on croit connaître, et je crois qu'en fait, on ne connaît pas vraiment. Il y a une manière d'avoir une prise de conscience, ça consiste à faire ce que je disais tout à l'heure. Si un jour vous ne regardez pas la télévision, vous sortez, vous ouvrez la fenêtre, vous regardez le ciel où il y a des étoiles, à ce moment là vous allez automatiquement prendre conscience que vous êtes sur Terre. Ça a l'air de rien, mais ça donne déjà une perspective par rapport à vos soucis, quels qu'ils soient. Si vous avez des soucis de boulot, vous n'avez pas le salaire que vous méritez, de famille, il y a vos enfants, vos parents qui vous cassent les pieds, de couple, tout d'un coup, le seul fait de regarder les étoiles va faire que vous allez relativiser vos problèmes personnels. C'est ça la conscience. Une autre expérience de conscience, c'est s'approcher d'un arbre. C'est pas la mystique, hein, c'est juste être un être humain sur sa planète. Vous touchez l'arbre, vous fermez les yeux et vous allez sentir quelque chose de vivant, de pas chaud, de pas comme nous, mais quelque chose de vivant, très ancien et qui a une énergie qui va dans la terre et qui monte vers le ciel. Ça, vous pouvez le faire en sortant tout à l'heure. Vous n'avez pas besoin d'être dans un club spécial de yoga, de méditation, de zen, de tout ce que vous voulez. C'est une prise de conscience, c'est gratuit, et vous n'avez même pas besoin d'avoir des gens autour de vous pour regarder que ça a marché ou en parler. Vous pouvez le faire pour vous. Voilà, c'est ce genre de choses qui semblent très très simples, mais qui font que vous avez moins de chances de devenir bête, ou en tout cas d'avoir l'esprit réduit. Parce que le drame, c'est les gens qui sont contents de ce qu'ils ont, qui ne veulent pas s'intéresser au système nouveau, qui ne veulent pas élargir l'esprit, et qui rendent un système de routine. Et là, la sanction, elle est terrible. C'est la réduction du cerveau, shrinking brain. Le cerveau devient plus petit, parce que vu qu'il n'est pas utilisé, le cerveau est un organe qui se développe que quand on l'utilise. Si vous ne l'utilisez pas, ben il perd ses fonctions. C'est pour ça que les jeunes apprennent si facilement à l'école des choses que nous, adultes, on aurait du mal à apprendre, parce qu'ils sont dans une dynamique de chaque jour, on apprend un truc nouveau. Mais il est très important d'apprendre, de rechercher la connaissance et d'avoir cette conscience que nous faisons une aventure qui n'a rien à voir avec l'argent, avec le boulot, avec même l'amour, qui est un élargissement de l'esprit, et que cette aventure est relativement nouvelle. On n'a même pas besoin de définir ça comme New Age, on n'a pas besoin de dire que c'est à la mode. Ça a toujours existé, c'est juste qu'il y a des gens qui se posent la question et d'autres qui considèrent que ça va comme ça et qu'ils n'ont pas besoin de ça. Mais je pense que si vous êtes là, c'est qu'il y en a plusieurs parmi vous qui se sont posés cette question.
Voilà, donc ça passe par le ciel, les étoiles, les arts, mais aussi heureusement par les livres. Et c'est vrai que maintenant on va passer aux questions de votre public, Bernard Werber. Je vous demanderai juste, comme à l'école, de lever le doigt, une déformation, pour que je vous apporte le micro, pour que tout le monde puisse vous entendre, parce que sinon, ça ne sera pas évident pour tout le monde.
Alors, il y a un petit adolescent là-bas. Pour la première.
Voilà, il faut bien une première question. Bernard, as-tu lu ou vu la couverture du dernier Philosophie Magazine ?
Non.
Eh bien, il est marqué en grand, et donc tu vas me dire ce que tu en penses, avec ta formation, qu'il est enfin prouvé que le singe descend de l'homme.
Ah oui, c'est... Oui, mais quand je l'ai vu, je me suis dit, autant de temps pour redécouvrir Pierre Boulle. Parce qu'il y a un livre qui s'appelle La planète des singes, que je peux vous conseiller aussi, qui est une petite merveille de science-fiction philosophique. Et y a un réel enjeu de ne pas redevenir des singes, mais nous sommes la génération qui allons vivre cette mutation, sortir de l'animalité pour devenir des êtres d'esprit. Une phrase de Teilhard de Chardin que j'aime bien, c'est « Nous ne sommes pas des hommes qui faisons l'expérience de la spiritualité, nous sommes des esprits qui faisons l'expérience de l'humanité. » C'est-à-dire, nous sommes des êtres beaucoup plus larges que le truc de viande dans lequel vous êtes habillé et qui est l'image que vous donnez aux autres. Et c'est ça qui nous fait la différence avec les singes. C'est que je crois que le singe, pour reprendre la question, le singe, il se perçoit lui-même comme le truc de poil avec des yeux, même s'il se voit dans la glace, il se reconnaît comme ça. Et que nous, grâce à cette expérience que j'appelle l'accroissement de la conscience, on peut se dire, je suis ça, mais je ne suis pas que ça. Comme on dit, je suis ce prénom, mais je ne suis pas ce prénom, ce nom de famille, mais je ne suis pas que ce prénom, ce nom de famille. Et cette idée, cet élargissement de l'esprit, c'est ça qui nous différencie du singe. Mais n'allons pas trop vers la philosophie, sinon tout le monde va être largué. Si vous voulez poser des questions, posez des questions toutes simples, même si j'ai mis le truc. Autre question, monsieur ?
J'apporte le micro.
Il va vous envoyer le micro, vous essayez de ne pas vous le prendre dans la gueule. Il va vous le lancer bientôt.
Qu'est-ce qui vous a inspiré dans ce livre ?
Dans celui-là ? Oui. La drogue, l'alcool, les trucs habituels. Je rigole, une fois, à l'interview en Belgique, j'ai dit ça, ils l'ont assez tel quel dans l'article. J'ai dit, mais je plaisante. Ils n'ont pas mis, mais je plaisante. qu'est-ce qui m'a inspiré ça ? D'abord, une envie d'être une femme, durant 600 pages, je crois. Je crois que tout homme a envie de savoir ce que sentent les femmes. Enfin, tout homme un peu curieux. Parce qu'on peut mettre la main sur un arbre, mais on peut mettre la main sur une femme aussi. C'est une expérience qui peut être sympa. Et essayer de se demander qu'est-ce qu'elle ressent. Enfin, moi, en tant qu'homme, je me demande ce que ressent une femme. Donc, j'avais envie depuis longtemps de faire une héroïne et de la montrer sous deux angles. Un, ce qu'elle fait, et deux, ce qu'elle pense. Mais pour avoir ce qu'elle pense, qui est le côté le plus marrant du livre, il fallait que je me pose une question sur qu'est-ce que pensent les femmes. Il y a un film, je crois, qui est comme ça, d'ailleurs, mais il voit ça de manière superficielle. Donc, quand j'écrivais, je me mettais dans la peau de Cassandre, qui est non seulement c'est une femme, mais en plus elle a 17 ans. Donc, il fallait que je me mette dans la peau d'une jeune fille en train d'être dans le passage à la femme, au stade de femme. Et ça, c'était très, très intéressant. Évidemment, je l'ai déduit de ce que j'ai eu des conversations avec des femmes, mais je ne suis qu'un homme, et tant que je ne me suis pas fait l'opération pour devenir un transsexuel, je ne pourrais pas vraiment vous dire ce qu'est une pensée plus féminine. Je ne le ferai pas l'opération. Donc, je vais tout le temps rester dans un travail d'imaginaire. Mais j'avais envie de faire cette expérience et de vous la transmettre. Et j'étais très content quand certaines lectrices m'ont dit « Mais c'est ma vie que vous racontez là !» Et là, je me suis dit « Chouette, moi, je suis arrivé à donner l'impression que j'arrive à avoir quelque chose qui ressemble à une pensée féminine. » Mais pour un homme, c'est difficile de comprendre une pensée féminine. J'ai plusieurs explications dessus qui sont toutes aussi plus mauvaises les unes que les autres. Parce qu'évidemment, tout homme qui sait comprendre une femme, il n'y arrive jamais. La première, c'est que les hommes ont une perception linéaire du monde et les femmes ont une perception cyclique. Pour un homme, il y a tout le temps plus de territoire, plus de force, plus d'argent, plus de tout. Et pour une femme, il y a les choses montent et descendent, c'est-à-dire les choses peuvent peuvent à un moment aller vers le haut, mais ça peut aller vers le bas et ça peut remonter vers le haut, un peu comme d'ailleurs c'est la réalité, c'est les saisons. Et après l'hiver, le printemps, et période froide, période chaude, et on ne va pas de plus en plus vers le froid, de plus en plus vers le chaud, surtout dans notre région tempérée. Donc elles ont plus une capacité à comprendre que les choses ne sont pas tout le temps dans la même direction. Et c'est ça que j'ai essayé aussi de percevoir. Et l'autre notion qui fait que c'est un peu compliqué les rapports hommes-femmes, c'est qu'elles perçoivent tout de manière émotionnelle, alors que nous sommes plus dans quelque chose de plus guerrier. Elles sont plus dans quelque chose de dialogue. En fait, je vais pousser un peu loin le bouchon, je pense que les femmes sont capables d'aimer, et que les hommes ne sont pas capables de comprendre même ce qu'est cette notion. Je vais fort. Hein. Mais elles sont capables d'aimer pour nos enceintes, c'est qu'elles feront des enfants, et que ce rapport, cette chose de créer un être humain de l'intérieur, est une expérience qui fait que le mot aimer a un sens très chimique, physiologique. Alors que pour nous, aimer, c'est une notion presque, c'est une manière d'attirer l'autre. Pour, c'est affreux de dire ça de la part d'un mec, je suis en train de saboter tout le truc, mais c'est presque une manière de prendre du pouvoir. Voilà. Et donc la femme, au moment où elle aime, c'est juste une émanation logique d'un truc quasi ventral. Et pour l'homme, c'est une volonté de captation de pouvoir. D'ailleurs, après, ça tombe sur « c'est ma femme ». Et quand l'homme dit « c'est ma femme », je pense que ça ne veut pas dire la même chose que quand la femme dit « c'est mon mari ». Et pourtant, c'est les mêmes mots. D'où l'intérêt de réfléchir sur les mots et de réfléchir sur nos différences. Donc, un, je voulais savoir ce qu'était une femme de l'intérieur. Deux, il y avait l'idée de faire une héroïne qui soit une héroïne normale. Comment dire ? Pas normale. Une héroïne, quelqu'un qui pourrait avoir ces aventures-là dans un monde qui existe réellement ou qui est très proche de notre monde. Et il n'y a que le lecteur et elle qui savent qu'ils sont des gens extraordinaires, que c'est une femme extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'en plus, elle est non seulement femme, mais elle est autiste. Elle ne parle pas. Elle agit, elle pense. Elle parle très peu et quand elle parle, elle réfléchit à ce qu'elle dit. Pourquoi ? Parce que précisément, elle sait la valeur des mots et elle sait que quand on utilise un mot, ce mot peut faire du mal. Les mots ont une capacité à être des poisons ou des médicaments. Elle le sait profondément. Donc elle économise ses mots et quand elle nous dit quelque chose, ça veut vraiment dire quelque chose. Et voilà, ce personnage qui a cette sagesse me semblait intéressant. Alors j'ai rajouté encore un autre gadget sur lequel je travaille depuis longtemps. C'était un être humain qui a le souvenir de ses vies précédentes alors qu'il a oublié son propre passé. Donc elle ne connaît pas sa jeunesse, mais elle sait qui elle était avant. Et elle sait toutes les personnes qu'elle a été avant de naître en tant que Cassandre Katzenberg. Voilà, ça c'était la règle du jeu de base, et après je me suis amusé. Et à un moment, quand le système est bien foutu, c'est que du plaisir, que du jeu à l'écriture. Et parce que c'est que du plaisir et que du jeu à l'écriture, ça peut être du plaisir et du jeu à la lecture. Ça devient un challenge qui est tout le temps se surpasser, tout le temps vous surprendre, tout le temps vous amener dans une nouvelle direction. Et maintenant, vu que vous la connaissez bien, qu'elle est devenue votre amie, vous vivez avec elle un truc, et c'est l'expérience même du roman. Intéressant, c'est ce que j'appellerais un catharsis, c'est-à-dire vous vivez à travers une expérience, et vu qu'elle vit des choses et qu'elle évolue, vous-même, vous allez être changé par le livre. Moi, les livres que j'aime, ils font comme ça. Donc, j'écris le livre que je sais que j'ai envie de lire. Il y a un livre de base de ça, qui est Monte Cristo de Dumas, c'est-à-dire vous voyez un être humain qui va vivre une grande douleur et qui va vivre une grande vengeance, et parce qu'il vit une grande douleur, vous l'aimez, et parce qu'il a une grande vengeance, vous êtes en jubilation. c'est le principe physiologique de l'histoire, la capacité de l'histoire à vous faire du bien. Et donc j'ai utilisé cette mécanique, elle vit une grande douleur et elle a un grand trouble, elle va la surpasser et elle va transformer ce qui semble un handicap en force, et même elle va surpasser toutes les autres personnes parce que vu qu'elle est fermée, elle va s'ouvrir beaucoup plus que les autres. Vu qu'elle est fermée du fait de son autisme, elle perçoit le monde et la nature de manière plus large.